info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
Ils amènent le pays où? Et c'est le même système qui doit continuer.
Toute la famille est venue cueillir la fille pour la ramener et la donner de force en mariage.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, Boko Haram augmente la pression au Nigeria dans la perspective des élections. Le Burkina Faso veut activer la relance socio-économique de la seconde ville du pays, Bobo Dioulasso.
C'est vrai, on est la capitale économique, mais quand tu arrives à Bobo, tu te rends compte que les jeunes n'ont pas d'emploi. Oui.
Reportage de Zoumana Wanogo à suivre. Au Mali, investissement de 1230 milliards de francs CFA pour moderniser l'armée. Ebola, un nouveau test de diagnostic rapide a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, au Togo, une ONG œuvrant pour l'éducation et le développement des communautés rurales a été récompensée. Voici les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Nous ouvrons l'émission avec le Nigeria. Pendant qu'une force régionale est en train de se mettre en place et que les soldats nigérians semblent reprendre un peu de terrain à Boko Haram, les djihadistes mènent des attaques sur plusieurs fronts à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria. Ce qui pourrait ressembler à un changement de tactique alors que des élections sont prévues au Nigeria à la fin mars. Nicolas Pineau.
L'attaque de Boko Haram sur la ville de Gombe au début du mois en a surpris plus d'un. Les djihadistes sont entrés au cœur de la ville pour abattre des soldats et distribuer des tracts, avertissant ceux qui veulent participer au vote du 28 mars. C'était une première. Un habitant de la ville de Dadinkowa, qui avait subi une autre attaque, estime que l'incursion ne semblait pas être pour occuper un territoire, mais pour semer la peur. Je crois que leur objectif était de faire peur aux habitants de Gombe parce qu'ils sont allés dans le centre-ville et même autour de la caserne militaire. Ces dernières semaines, l'armée nigériane a repris son offensive et les troupes du Tchad, du Cameroun et du Niger voisin augmentent la pression sur les djihadistes. Les soldats nigérians assurent même avoir repris plusieurs localités, y compris Baga, sur les rives du lac Tchad, où les extrémistes avaient perpétré un massacre le mois dernier. Pour le journaliste Al-Qassim Abdulkadir, ces gains de l'armée nigériane forcent Boko Haram à changer de stratégie. Si l'offensive devient plus corsée, alors nous les verrons chercher de nouveaux fronts pour mener leur guerre. L'expert prévoit même une augmentation des attentats suicides à mesure que Boko Haram perdra du terrain dans ses fiefs dans l'extrême nord-est du pays. C'est à ce moment qu'ils vont activer les cellules dormantes pour frapper les villes, continuer la guerre, mais pas pour occuper des territoires, ni rester sur la défensive. Mais vous savez, ils vont entrer dans la clandestinité, mais en gardant quelques combattants armés dans certaines zones choisies. Mais je crois que les attaques vont se poursuivre avec plus d'attentats suicides, mais aussi des attaques sur les populations urbaines. Ces derniers jours, Boko Haram a attaqué une série de villages dans l'état d'Adamawa. Ils ont brièvement occupé la ville de Hong avant d'être repoussés par les militaires et les milices locales d'autodéfense. L'imam Daouda Bello est membre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix dans l'état d'Adamawa. Ils essaient de traverser vers le Cameroun et ailleurs, mais maintenant le Cameroun les attaque aussi et ils ne peuvent pas aller au Niger ni au Tchad. Ils essaient donc de trouver un moyen de s'échapper, alors ils peuvent atteindre de petits villages qu'ils vont raser et continuer. Et peut-être ils pourront pénétrer nuitamment dans une ville. Ainsi, ils ne seront pas détectés et certains d'entre eux pourront s'échapper et se fondre comme des citoyens ordinaires. Maintenant, la peur des infiltrés commence à envahir les camps de déplacés internes et la suspicion se répand sur des allégations de gens qui viennent prendre refuge dans les camps alors qu'ils sont membres du groupe djihadiste.
Au Burkina Faso, maintenant, pour sa première sortie officielle nationale, le président de la transition, Michel Kafando, a choisi Bobo Dioulasso, dans le sud-ouest du pays. Au menu de la visite, délocalisation du Conseil des ministres dans la banlieue de Bobo, visite des usines et rencontre avec les autorités régionales, le tout sur un fonds de relance socio-économique de cette ville qui ne porte plus vraiment son nom de capitale économique. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouonogo.
Que pensent les Bobolais habitants de Bobo Dioulasso de cette visite présidentielle? Suivons l'avis de quelques jeunes.
Si le président et le premier ministre se sont déplacés pour ici, c'est que c'est sûrement avec une intention de sensibiliser les jeunes ou bien d'encourager les jeunes à participer d'abord tout premièrement au bon déroulement de la transition et puis au développement du Burkina Faso.
Oui, c'est vrai, on est la capitale économique, mais quand tu arrives à Bobo, tu te rends compte que les jeunes n'ont pas d'emploi. Nous-mêmes, au niveau des universités, nous finissons, mais il y a ce problème-là qui pose. Et peut-être après 5 ans, 6 ans, même 10 ans après avoir obtenu ton diplôme, tu manques toujours d'emploi.
Comme le dirait un frère un jour, il disait que la zone industrielle de Bobo, ce n'est que des noms. La zone industrielle, là, c'est cimetière de ferraille.
L'existence de ces cimetières de ferraille serait-elle liée aux difficultés que connaissent les industries à Bobo Dioulasso? Écoutons les préoccupations existentielles de Alexandre Zana. Il est le directeur général des huileries SNCTEC.
Au quotidien, c'est comme à peu près dans toute l'industrie, c'est la fraude. Il faut des importations d'huile. À nous seuls, nous ne pouvons pas répondre à la demande de l'État et de l'ensemble du Burkina des populations. Mais il faut que les fraudes cessent. Il faut des importations, bien entendu, mais qui respectent simplement la législation en vigueur.
À la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, les préoccupations sont d'ordre boursière. C'est ce qu'a confié Jean-Paul Savadougou, son directeur général.
Le coton est coté en bourse, ce qui signifie qu'il évolue, si vous voulez, comme le dollar. Le prix du kilogramme de coton peut changer d'une heure à l'autre. Et donc, quand il y a des variations très importantes du cours mondial, cela joue sur nos activités. Nous avons constitué ce qu'on appelle une petite caisse de péréquation pour permettre justement de prendre en charge ces différentes variations, autant que faire se peut.
Les attentes sont nombreuses et légitimes, mais, assure la ministre en charge du budget, la transition ne peut pas tout faire. Néanmoins, voilà la partition de la transition que nous livre la ministre Amina Bila.
Au rang de ces actions, les travaux d'aménagement de voirie et qui vont coûter environ 2,5 milliards. Il y a également le barrage de Samandeni. Le gouvernement de transition alloue environ 18,5 milliards pour ce gros projet. Le barrage de Samandeni, c'est un agropôle et ça permettra alors de créer de l'emploi. C'est également une possibilité de disponibiliser de l'énergie hydraulique. Mais il faut donner aussi la capacité à ces acteurs au niveau de Bobo de se prendre en charge, soit créer de l'emploi eux-mêmes ou être embauchés. On a prévu à ce niveau qu'il y ait quand même une part importante du fonds initialement prévu pour l'entrepreneuriat féminin, 6 milliards, et pour le secteur informel, 4 milliards 5.
Cette visite à Bobo Dioulasso aura revêtu les avis d'un test de popularité et de confiance en la transition. Le président Michel Kafando.
Nous repartons à Ouagadougou vraiment satisfaits et surtout convaincus que la transition a derrière elle beaucoup de gens qui la soutiennent. Un soutien inébranlable. Et ça va nous aider à avancer et à appliquer le programme que nous nous sommes donné.
Zoumana Ouonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Direction le Mali à présent, gros coup de pouce financier pour l'armée malienne qui va bénéficier d'un investissement de plus de 1230 milliards de francs CFA pour la période 2015-2019. Un montant fixé par la loi d'orientation et de programmation militaire adoptée à l'unanimité au Parlement malien. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est la Commission Défense Nationale de la Sécurité et de la Protection Civile qui a été saisie au fond pour l'étude de ce projet de loi relatif à la loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015-2019. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 28 janvier 2015. Général Mahamane Touré, chef d'état-major général de l'armée malienne.
Il me semble utile de rappeler la direction stratégique donnée par le chef suprême des armées visant à restructurer notre outil de défense en vue d'ériger des forces républicaines respectueuses de l'état de droit, dédiées à la sécurité et à la protection des citoyens maliens et de ses biens, constituant ainsi une valeur ajoutée certaine au processus démocratique.
Cela fait quelques années que les Maliens se plaignent de la performance de leur armée nationale. La crise au nord du Mali a été une occasion pour bon nombre de Maliens de savoir la grave crise que traversent les soldats maliens. Soumaïla Traoré, communiquant sur les sujets de l'armée.
La loi de programmation militaire vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, il est question de restituer l'armée malienne pour faire face à la réalité du terrain. Cette armée a besoin d'être équipée pour faire face à ses missions régaliennes. Aujourd'hui, on sait que le Mali est confronté au djihadisme qui occupe le nord du pays. C'est une guerre asymétrique et notre armée doit être préparée pour ça. Nous devons former des unités d'élite, des brigades spécialisées à faire face au terrorisme.
La nouvelle loi prévoit plusieurs séries de formations, de recyclage, d'équipements, de construction et de reconstruction des infrastructures militaires, mais aussi le recrutement en masse des soldats pour tous les segments de l'armée malienne et les forces de sécurité. La double crise qu'a connue le Mali en 2012 a révélé au grand jour divers problèmes au sein de l'armée malienne. C'est pourquoi le président de la Commission nationale défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale veut qu'il y ait une gestion rigoureuse des fonds qui seront mobilisés. Honorable Karim Keïta.
Elle va doter l'armée en tout ce qui est équipement, personnel, fourniture, aussi les infrastructures. Elle va servir à rehausser tout cela en partant de l'existant, mais aussi en créant de nouvelles casernes, de nouveaux camps. Mais nous serons, nous, au niveau de la commission défense, très regardants sur les dépenses.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et vous nous écoutez sur le 102 FM à Bamako. Rubrique santé à présent pour évoquer de nouveau Ebola. Un nouveau test de diagnostic rapide a été approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun courant électrique, il permettra de donner un résultat en un quart d'heure. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone Tariq Yassarivix. Il est le porte-parole de l'OMS.
Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste donner l'accord et déclarer que ce test particulier remplit les conditions d'efficacité et de sécurité et donc il peut être utilisé dans les pays affectés. Maintenant, il faut vraiment voir déjà quel va être le coût. Le coût de ce test n'a pas encore été fixé. Il faut aussi que le producteur finisse un peu les procédures administratives aux États-Unis. Et donc, en ce moment-là, on va donc voir comment le test peut être mis à la disposition dans les trois pays et donc qui sera intéressé vraiment de financer l'arrivée de ce test en Guinée, Sierra Leone et Liberia.
Alors, l'Ebola, vous le savez, c'est toujours une menace qui persiste. Est-ce que vous croyez que ce test va contribuer à éradiquer le fléau ?
Donc c'est un outil parmi d'autres et c'est un outil qui prouve que quand il y a vraiment une volonté, on peut accélérer la recherche. On espère d'avoir le résultat positif pour les tests de vaccins. Mais ceci dit, ça ne va pas en soi arrêter cette épidémie. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller dans la communauté, faire la surveillance, faire la recherche active des gens qui ont Ebola. Donc on a passé de ce stade où on essayait de construire les centres de traitement et avoir assez de laboratoires. Maintenant, on a des capacités sur place, mais pour arriver à zéro cas, ce qui est l'objectif, il faut vraiment aller dans la communauté, il faut trouver les gens malades, les isoler, leur fournir une prise en charge. Et donc ça va prendre du temps. Et pour cela, il faut vraiment qu'on continue à avoir nos équipes sur le terrain.
Tariq Yassarivix, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Il était joint par Salwa Jafari. Rubrique rubrique éducation, au Togo, la STEJE, une ONG qui promeut l'éducation et le développement des communautés rurales, a été mise à l'honneur. Sa présidente, Aimé Abra Tenou, a été nommée ambassadrice VLISCO en 2014 et elle a pu multiplier les actions d'éducation tout au long de l'année. Pour la fin de son mandat, elle a distribué 4 bourses d'études de 500 000 francs CFA à des étudiantes, une machine à coudre de maroquinerie pour l'atelier Zamke, qui est spécialisé dans la fabrication de sacs et accessoires en matière plastique recyclée, et 100 cartes nationales d'identité pour des femmes du centre d'alphabétisation de Stège. Retour sur le bilan de son année avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
3 domaines principaux ont été choisis par l'ambassadrice VLISCO 2014 pour contribuer au développement du Togo. Il s'agit de l'éducation, de la promotion des droits de la femme et de la protection de l'environnement. Pour appuyer le volet environnemental, l'unité de production des sacs et accessoires à partir des sachets plastiques recyclés a reçu une machine à coudre de maroquinerie. Aimé Abra Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et ambassadrice VLISCO 2014.
Dans le domaine de la protection de l'environnement, ça fait 4 ans que nous recyclons des sachets plastiques de type Piowata et nous recyclons maintenant jusqu'à 150 000 sachets Piowata par jour. Ça représente peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a plus de 2 millions de sachets qui sont déversés tous les jours à Lomé. Nous venons de monter un second atelier à Palimé où nous recyclons également environ 50 000 sachets là-bas. Il y a le volet environnement, mais il y a aussi l'accompagnement financier des femmes qui collectent ces sachets dans les rues. Ils sont rémunérés à hauteur de 4 francs le sachet plastique.
Sur le plan éducatif, 400 kits scolaires ont été remis aux enfants démunis des milieux ruraux et 4 bourses d'études d'une valeur de 500 000 francs CFA chacune pour des étudiantes des universités publiques du Togo. Le programme de bourse est assuré par le réseau NAASI. Luc Agbetoro, secrétaire général de ce réseau.
Notre programme vise à sortir l'étudiante togolais de ses difficultés quotidiennes en lui octroyant une opportunité de poursuivre ses études à partir des financeurs que nous cherchons au Togo et dans la diaspora. Si nous associons 10 personnes qui financent une bourse de 10 000 francs, nous avons une bourse globale de 100 000 francs qui peut servir à un étudiant qui est dans le besoin mais qui est aussi excellent.
La bourse Mois de la Femme se repose sur 3 critères fondamentaux. Être une jeune fille dans une université publique, avoir au moins 12 de moyenne et une situation sociale délicate. L'une des bénéficiaires de cette bourse est Ayawa Amedeovo. Elle est étudiante en deuxième année gestion, option comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé.
Cette bourse va m'apporter beaucoup, surtout en matière financière pour l'achat des matériels didactiques. La distance de ma maison jusqu'à l'université de Lomé, c'est un peu grand, donc j'ai besoin des moyens financiers. Donc mon projet d'avenir, c'est d'être expert comptable. Donc je veux promouvoir la transparence dans la gestion, devenir aussi une leader, une modèle pour la jeune fille togolaise.
La dernière action sociale de l'ambassadrice Aimé Abra Tenou est l'établissement de 100 cartes d'identité nationale pour des femmes du centre d'alphabétisation de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rediffusion de cette émission vendredi prochain à 18h, temps universel. À la réalisation, Michel Joseph, à la technique, Glenn Van Callio, au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec Glory, qui a gagné l'Oscar 2015 de la meilleure musique de film pour Selma, d'Ava DuVernay. Selma retrace la marche pour les droits civiques menée par Martin Luther King en 1964 contre la ségrégation. Bonne soirée et bonne nuit à tous. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop and we ran up. One day, when the glory comes.